Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Marc Jancovici.
Bonjour.
Merci d'être à mon micro ce matin. Vous êtes ingénieur, spécialiste du climat. Vous présidez ce think tank The Shift Project qui alerte depuis des années. Et là, on le voit, ces derniers jours, record sur record, 40 degrés atteints hier. On n'est toujours pas à l'été, hein, officiellement. Ça va s'arrêter où? Ça va monter jusqu'où?
Ben, ça va continuer à monter. Il y a aucune surprise à avoir là-dedans. Enfin, je veux dire, si les gens qui nous regardent sont surpris, pardonnez-moi d'être un peu taquin, c'est que vous avez mal fait votre travail jusqu'à maintenant.
Pourtant, je vous ai beaucoup reçu, donc vous aussi, semble-t-il.
Beaucoup. Non, c'est pas moi qui fais la programmation des médias. C'est tout ce qui est en train de se passer est parfaitement en ligne avec des prévisions qui ont été faites il y a maintenant des décennies. On sait depuis 2 siècles que quand on rajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le climat se réchauffe. On sait depuis 1 siècle à peu près de combien il se réchauffe en fonction de la quantité de CO2 qu'on rajoute. Donc pour le moment, tout se passe comme prévu.
Tout se passe comme prévu. Vous n'êtes absolument pas surpris.
Non, je suis un peu, j'aime pas ce qui se passe.
Vous le subissez comme tout le monde.
Je le subis comme tout le monde, mais j'ai envie de dire tout se passe comme prévu, malheureusement.
Jean-Marc Jancovici, il y a évidemment des conséquences très concrètes. On va y venir dans un instant sur les questions de transport, de santé, d'école. Mais au fond, quand je vous écoute et que vous dites continue à rajouter des gaz à effet de serre. Je voudrais qu'on arrive à peut-être se mettre d'accord sur les chiffres et que vous m'expliquiez ce qu'il en est. Parce que les chiffres montrent justement que ça a commencé à descendre. Et pour le coup, le thermomètre monte. L'INSEE hier, et justement, je voudrais comprendre comment vous lisez ces chiffres, ou alors s'ils sont faux. L'INSEE sur le climat a publié cette semaine l'idée que les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 2,1%.
En France.
En France.
Oui, en France.
Pour 2026. Qu'en France, si on prend la période 2017-2026, il y a une baisse de 25% des émissions de gaz à effet de serre. On a baissé d'un quart.
Oui, mais ce qui compte pour le climat en France, c'est les émissions mondiales. C'est ça que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Pourquoi ça? Parce que le CO2 est un gaz chimiquement stable une fois dans l'atmosphère, donc il va y rester très longtemps une fois qu'on l'a mis, et donc à cause de la circulation atmosphérique qui brasse l'air partout sur la planète, en fait, le lieu d'émission du CO2 n'a pas d'importance. Donc le réchauffement que nous sommes en train de subir en ce moment, c'est la conséquence des émissions passées en France, aux États-Unis, en Chine, en Mongolie, en Norvège, en Suède, et partout ailleurs, en Argentine et partout ailleurs.
Voilà. Mais ça veut dire aussi, Jean-Marc Jancovici, que des efforts ont été faits et qu'ils ont porté leurs fruits.
Alors, des efforts ont porté leurs fruits en ce qui concerne les émissions françaises. Mais en ce qui concerne les émissions mondiales, elles sont en hausse depuis toujours.
Mais donc, c'est-à-dire que là, on se donne du mal, mais de toute façon, on est tributaire des autres.
Alors, on est tributaire des autres en ce qui concerne le climat. Par contre, il y a eu un petit truc dans l'actualité récemment qui vient se rajouter à la canicule, qui s'appelle le détroit d'Ormuz, qui nous rappelle que de toute façon, nous, on va devoir faire avec de moins en moins de combustibles fossiles parce qu'on importe tout et que les gens qui nous fournissent vont voir les gisements de toute façon se tarir.
Mais votre réponse à vous là-dessus, c'est pas forcément de se dire, allons nous fournir ailleurs, c'est apprenons à nous en passer.
Ben, c'est qu'on peut plus, on va plus pouvoir se fournir ailleurs. Vous savez, extraire du pétrole, c'est vider des placards. Le pétrole met entre 40 et 400 millions d'années à se former sous terre. Le gaz, pareil. Le charbon, pareil. Et quand vous videz un placard, c'est assez facile de comprendre que, au bout d'un moment, vous pouvez plus avoir en provenance de votre placard la même chose qu'avant.
Donc le placard se vide.
Le placard se vide, exactement. Et donc l'approvisionnement peut pas être garanti pour l'éternité.
Alors le détroit d'Ormuz, on va voir s'il rouvre ou pas. En attendant, en effet, on entend les propos même de Donald Trump qui pratiquement premier mot après le début d'un accord, c'était rallumer les moteurs, faites couler le pétrole.
Oui. Alors aux États-Unis, ils peuvent parce qu'ils sont redevenus le premier producteur mondial, mais sur la planète, on peut pas. En fait, la planète a passé en 2008 le pic de production sur le pétrole qu'on appelle conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas pétrole de schiste américain et sable bitumineux canadien. Et en ce qui concerne l'Europe, l'Europe est en décrue subie de combustibles fossiles depuis 2007. Tout simplement parce que nous étions dépendants de la mer du Nord qui a passé son pic en 2000 sur le pétrole, en 2005 sur le gaz. Nous étions dépendants du charbon qui a passé son pic dans les années 80 en Europe. Donc en fait, en Europe, on est en décrue subie de combustibles fossiles. Et même si demain matin, la Commission, les dirigeants allemands, français, italiens, etc. disaient « rallumez les moteurs, on en consomme autant qu'on veut », on continuerait à consommer de moins en moins d'hydrocarbures. Tout simplement parce qu'il y en a de moins en moins qui sont accessibles aux Européens.
Ça veut dire que quand Emmanuel Macron dit le soir de Versailles, c'est une bonne nouvelle parce que les prix à la pompe vont baisser, à vos yeux, c'est pas forcément une bonne nouvelle.
Ah non, alors de toute façon, quelque chose qui va peut-être choquer une partie des gens qui nous écoutent, le pétrole est gratuit au regard du service qu'il nous rend.
C'est-à-dire?
Le pétrole a fait le monde, les combustibles fossiles ont fait le monde moderne. Ça a fait notre pouvoir d'achat, les retraites, les études longues, l'urbanisation, le milliard d'objets qu'on peut s'acheter, le commerce en ligne, les smartphones, etc. Tout ça, c'est des combustibles fossiles. Et donc, au regard de ce que ça nous a amené, ça ne vaut rien.
C'est peanuts.
C'est peanuts, absolument.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il faudra renoncer à toute la liste que vous venez de faire?
Alors, ça dépend. La semaine prochaine, non. À l'échelle du siècle, oui.
Renoncer?
On va en avoir de moins en moins, oui, il va falloir faire avec de moins en moins.
Apprendre à s'en passer. Est-ce que vous êtes partisan de la décroissance?
Elle est déjà là. Quand on regarde l'économie européenne, en fait, elle est déjà en décroissance depuis une vingtaine d'années. Alors, à quoi je mesure ça? À la quantité de marchandises qui circulent dans les camions. Cet indicateur baisse depuis 20 ans, depuis 2007. Et au mètre carré construit dans l'année, cet indicateur baisse depuis 2007 également en Europe. Donc, en fait, l'économie physique en Europe, elle est déjà en train de se contracter, et c'est une raison pour laquelle une fraction croissante de nos concitoyens ont du mal à joindre les deux bouts, ont de plus en plus de mal à se loger, à accéder à la consommation. Quand vous recevez un distributeur ici, il vous dira qu'une large partie de la population française déconsomme déjà. Alors pas monstrueusement, mais un peu. Et tout ça, c'est la conséquence de ce que je viens d'évoquer sur l'énergie.
Et que c'est déjà amorcé, on va en venir évidemment aux conséquences, mais là, immédiatement, quand vous me dites c'était prévu, ça va continuer à monter. Jusqu'où? C'est-à-dire vos analyses en
alors
fonction.
Ça va dépendre de ce qu'on va continuer à rajouter comme CO2 dans l'atmosphère. À partir du moment où on a créé un surplus de CO2 dans l'atmosphère, comme le CO2 est très stable chimiquement, il faut attendre plus de 10 000 ans après arrêt des émissions pour que le surplus évacue.
Vous êtes en train de me dire qu'il va falloir attendre 10 000 ans pour que la température baisse?
Alors, il va falloir attendre 10 000 ans pour que le surplus évacue. Non, la température va baisser avant 10 000 ans. Par contre, pour que la température commence à baisser, il faut que les émissions deviennent nulles. Les émissions planétaires deviennent nulles.
À zéro.
On
en est très très loin.
On en est très très loin. Donc, tant qu'on continue à rajouter du CO2 dans l'atmosphère, la température va continuer à monter.
Il y a une chose, vous dites nul, mais entre nul et rajouté, il y a quand même une baisse.
Non, tant que c'est nul, tant que c'est pas nul, une partie du CO2 qu'on émet reste dans l'atmosphère et la concentration en CO2 dans l'atmosphère augmente.
Donc Jean-Marc Jancovici, ce matin, vous nous dites que les 40 degrés qu'on a passés
pas
déjà
dis,
hier...
Le GIEC le dit.
Le spécialiste du climat, qu'au fond, le fait qu'on passe de plus en plus tôt et de plus en plus haut des records, ça ne va que continuer pendant au moins 10 ans?
Ça va continuer pendant jusqu'à temps que les émissions soient pas nulles. Donc pendant beaucoup plus que 10 ans.
On fait quoi en attendant?
Il faut baisser les émissions le plus vite possible. Ça, c'est très clair.
Est-ce que c'est foutu? Est-ce que ceux qui nous
ce qui est foutu, entre guillemets, c'est que c'est pas parce qu'on va commencer à baisser les émissions que le climat va se remettre dans l'état dans lequel il était avant qu'on ait commencé à émettre. Ça n'arrivera pas de votre vivant, ni du vivant de vos enfants, ni du vivant de vos petits-enfants. Donc il va falloir apprendre à vivre avec un climat qui aura changé de toute façon.
D'ailleurs, vous parlez d'enfants et de petits-enfants, mais une grande partie de la classe politique, économique, s'effraie du fait que les Français ne font plus d'enfants. Est-ce qu'à vos yeux, c'est une bonne nouvelle que les Français ne fassent plus d'enfants?
Je n'ai pas d'avis là-dessus.
Vous avez un avis, mais vous ne voulez pas le donner?
Non, j'ai pas.
Vous avez peur de la polémique?
Non, j'ai pas d'avis là-dessus. C'est d'abord avoir un enfant, c'est une décision extrêmement personnelle. Ce qu'on constate, c'est que
je
ça concerne
pas sur le ça fait d'avoir d'enfants ou pas ça à concerne... titre personnel, mais à titre collectif.
C'est un long débat. D'abord, ça concerne pas que la France. La baisse du nombre d'enfants est quelque chose qui est mondial. C'est un phénomène mondial qui se constate absolument partout.
C'est juste.
Et sur les 5 dernières années, du reste, ça s'est même accéléré de façon très très forte. Et ça a surpris beaucoup de démographes, du reste. Et donc, c'est difficile, avant de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, il faudra essayer de comprendre pourquoi.
Ce que je veux dire, c'est que ma question, c'est est-ce que lorsque les politiques disent qu'il faut réarmer démographiquement le pays, il faut encourager, aider les familles?
Alors, la seule chose que je peux vous dire, c'est que la Terre ne peut pas supporter 8 milliards d'individus vivant comme un Français modeste. Voilà. Ça, c'est pas possible.
Ça veut dire quoi? Il peut les supporter comme un Français riche?
Un Français modeste consomme trop pour que 8 milliards d'individus puissent consommer comme lui.
Donc il faut effectivement, en tout cas en l'état,
donc ça veut dire
ne
qu'il y a...
pas augmenter ce chiffre.
Voilà, donc ça veut dire que effectivement, si le chiffre augmente trop, ça augmente les problèmes qu'on a à gérer.
Entre temps, Jean-Marc Jancovici, il va falloir s'adapter effectivement, ne serait-ce que pour survivre face à cette chaleur. Et il y a ce débat clim ou pas clim.
C'est pas un problème majeur. Alors la clim, d'abord c'est la partie émergée de l'iceberg. Il faut bien voir que le réchauffement climatique, certes, c'est pénible quand il y a une vague de chaleur, moi le premier. Cela étant, c'est pas le fait d'avoir chaud qui est la conséquence la plus dommageable de ce qui est en train de se passer.
Alors c'est quoi ?
Il y a des problèmes avec les récoltes, il y a des problèmes avec la fissuration des bâtiments, il y a des problèmes avec la résistance des infrastructures, les trains qui roulent ou qui roulent pas, il y a des problèmes avec les usines qui peuvent travailler ou pas, il y a des problèmes avec les chantiers extérieurs qui peuvent se mener ou pas, il y a des problèmes avec les fleuves et l'approvisionnement en eau, parce que quand il fait très sec et très chaud, ben vous avez moins d'eau disponible. Enfin bref, il y a un milliard de problèmes dans lesquels le fait qu'on est chaud, c'est un problème parmi 50, et c'est pas nécessairement le plus grave.
Avec cette question, vous évoquiez les trains. On voit par exemple qu'aujourd'hui, il y a 70 trains qui vont être annulés. C'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que on voudrait encourager les gens à prendre les transports en commun, mais face à ces chaleurs, ils ne fonctionnent plus.
Oui, alors ces chaleurs, c'est quand même pas toute l'année, donc il faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Par ailleurs, il y a 70 trains qui fonctionnent pas, mais enfin, il y en a quand même un certain nombre d'autres qui fonctionnent.
Un grand nombre qui fonctionnent, et c'est surtout les trains les plus vétustes.
Mais par contre, pour donner l'exemple du train, on a construit nos infrastructures dans un climat donné. Tout le monde sait que quand on chauffe des corps, ça se dilate. Par exemple, les rails, ils ont été construits pour supporter une certaine élévation de température. Si l'élévation de température est trop importante, la dilatation du rail est trop importante et les rails se cognent les uns contre les autres et les voies se tordent. Ça peut être une des conséquences. Ça peut être une conséquence du réchauffement climatique. Vous en avez également sur l'allongement des caténaires. Je sais pas si vous vous rappelez, mais en 2003, il y avait une ligne à haute tension. C'est pareil sur les câbles des lignes à haute tension. Quand il fait très chaud, le câble se dilate. Et il y a une ligne à haute tension entre la France et l'Italie en 2003 qui s'était tellement dilatée qu'elle a touché terre et déclenché un incendie. Donc, en fait, tout a été adapté au climat qui a été stable pendant des milliers d'années. Et le fait que le climat commence à se dérégler, ça va poser des problèmes un peu partout.
Va-t-il devenir stable haut ? C'est-à-dire, est-ce que ce que l'on connaît aujourd'hui devient la nouvelle stabilité ?
Tant qu'on émet, non.
Parce qu'il n'y a toujours pas de palier.
Tant qu'on émet, il n'y a pas de palier. Tant qu'on émet, on battra record sur record.
Jean-Marc Jancovici, je reviens quand même sur ma question de clim, parce que hier, le patron des programmes de l'ADEME, David Marshall, a dit qu'il était défavorable à la climatisation. Il dit si on massifiait son usage à Paris, par exemple, dans tous les logements, on aurait un impact entre 2 et 4 degrés sur la température extérieure. Oui. C'est juste ?
Alors, j'ai pas fait les calculs, mais en tout cas, la conclusion est qualitativement correcte. Qu'est-ce que c'est qu'une climatisation ? C'est un engin qui va vous retirer la chaleur de l'intérieur et la rejeter à l'extérieur. Donc effectivement, s'il fait plus frais à l'intérieur, il fait un peu plus chaud à l'extérieur. Pendant longtemps, une des raisons de critiquer la clim, c'était sa consommation électrique. Là, il se trouve que ça, c'est plus tellement un problème, parce qu'au moment où il fait très chaud, il y a aussi beaucoup de soleil, et au moment où il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup d'énergie solaire.
Et comme on peut la stocker, autant l'utiliser.
Exactement, okay. Donc là, on peut l'utiliser. Par contre, le fait qu'on rejette beaucoup de chaleur à l'extérieur, ça, c'est tout à fait avéré.
Mais pourquoi on a autorisé la clim dans les voitures, et pourquoi, je veux dire, on n'imaginerait plus une voiture sans clim ?
Vous savez, pourquoi est-ce qu'à un moment, on a autorisé la cigarette ? Enfin, je veux dire, de temps en temps, on fait des choses, et puis on se rend compte après coup que c'était pas nécessairement une bonne idée, ou qu'il y a des effets indésirables qu'on n'aime pas.
Vous dites qu'il faut changer radicalement nos habitudes, et vous dites qu'il y a trois façons d'économiser. L'énergie, l'efficacité, alors ça évidemment c'est le progrès, la sobriété, renoncer, et la pauvreté, mais vous dites ça c'est la même chose que le renoncement, mais c'est subi.
Oui.
Est-ce que ça veut dire que finalement, dans un certain sens, le retour à une forme de pauvreté vertueuse a votre faveur ?
Alors, la pauvreté, non, puisque c'est subi. Ce qui est à ma faveur, à moi, c'est la sobriété, c'est-à-dire le fait qu'on fasse un choix éclairé en se disant on va accepter de changer la façon dont on se comporte, parce qu'on va y voir des bénéfices, et il va également y avoir... Un changement, c'est toujours un renoncement. Je veux dire, quand vous déménagez, vous renoncez à votre ancien domicile. Donc, il y a des cas de figure dans lesquels renoncer, c'est pas grave. Vous pouvez déménager et trouver ça sympa. Vous pouvez renoncer à des mètres carrés et trouver ça sympa. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous amuser. Il y a des gens qui partent l'été en camping-car et à ce moment, ils passent de 40 mètres carrés habitables par personne à 3 mètres carrés habitables par personne et ils trouvent ça très bien. Donc, de temps en temps, avoir moins de quelque chose, c'est pas nécessairement un drame si par ailleurs on a plus d'autres choses et qu'on trouve que l'équation est globalement une bonne affaire. C'est ça qu'il faut essayer de. C'est à ça qu'on travaille au Shift Project, c'est essayer de trouver des manières sympathiques de proposer autre chose, de telle sorte que la part de renoncement, elle soit acceptable, voire désirée, parce qu'on se dit, finalement, c'est pas très grave.
Jean-Marc Jancovici, est-ce qu'il faut supprimer la Coupe du Monde ?
Laquelle ?
Celle qui a lieu en ce moment entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.
Ça dépend. Si les Français gagnent, non. Si les Français gagnent pas, peut-être.
Ah, voilà. Donc si les Français gagnent, ça, vous leur pardonnerez. Non, je vous pose cette question parce que le Parisien, mes confrères du Parisien ont fait les comptes avec l'aide d'une association qui s'appelle Greenlee. Et ils ont calculé, par exemple, alors là, on prend même pas les fans ou les supporters qui viennent de partout dans le monde, mais le patron de la FIFA, Gianni Infantino, il a assisté, rien que cette semaine, hein, à 10 matchs dans 3 pays. Donc Canada, Mexique, États-Unis, il a parcouru 20 000 km en jet privé. Une heure de vol donc du patron de la FIFA, ça correspond à l'empreinte carbone annuelle d'un être humain moyen.
Oui. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous me dites. C'est est-ce qu'il avait besoin d'un jet privé pour se déplacer? Ça, c'est une première question.
Ah bah, s'il voulait assister à tous les matchs, ou alors il fallait renoncer, vous le dites. Mais s'il voulait assister à 10 matchs dans 3 pays, il n'y avait pas d'autre moyen, à mon avis, que celui-là. Mais
je ne sais pas, je n'ai pas été regardé. Alors, ce qui est sûr, c'est que les grandes manifestations internationales, elles ont été permises par le pétrole. On avait fait au Chief Project un rapport justement sur ces manifestations. Et dans un monde avec beaucoup moins d'hydrocarbures, c'est pas sûr qu'on pourra les maintenir. Et effectivement, ça fait partie, au sein du monde sportif, de ces manifestations qui ont une empreinte carbone particulièrement élevée.
Est-ce qu'il faut supprimer la Coupe du Monde ?
Alors, est-ce qu'il faut supprimer la Coupe du Monde ? Pas nécessairement. Avant de la supprimer, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. On peut par exemple essayer de motiver les gens pour qu'ils se déplacent moins et faire des fan zones dans un certain nombre d'endroits pour que les gens puissent quand même célébrer sans se déplacer. Et quelque part, c'est ce que font tous les gens qui se mettent au bistrot derrière un écran et qui se prennent une boisson et qui regardent le match et qui sont contents d'être là et qui voilà, etc. Il y a également un vrai sujet sur la façon dont on organise les tournées. Les pays d'accueil, etc. Parce qu'on peut faire des choses de telle sorte que ça optimise les déplacements. Et on avait regardé tout ça au Chief Project, donc on a fait un petit rapport que les gens peuvent lire si ça les intéresse sur la façon déjà de baisser les émissions sans supprimer les manifestations.
Je vous poserai la même question sur les JO d'hiver qui vont avoir lieu en France en 2030. Est-ce que c'est souhaitable?
Alors ça, il y a encore un autre sujet avec les JO d'hiver, c'est que ça en général, ça équipe les endroits avec des infrastructures qui sont destinées à durer. Or, il y a un petit sujet avec l'enneigement. Qui est en train de diminuer. Donc la bonne question en ce qui concerne les Alpes, c'est qu'est-ce qu'il faut faire avec le tourisme hivernal, qui aujourd'hui est un très gros contributeur à l'économie de ces zones et qui va progressivement être attaqué entre guillemets.
J'ai l'impression que vous voulez toujours trouver l'équilibre et je le comprends parfaitement. Oui. Jean-Marc Jancovici, oui. Vous ne voulez pas justement décourager les êtres humains qui nous écoutent.
Mais c'est pas ça. C'est que c'est toujours un peu plus compliqué. Ça, qu'est-ce que vous dites à tous les gens qui vivent du tourisme en Savoie, en Haute-Savoie,
etc.
Bon, donc vous pouvez pas juste dire faut supprimer. De toute façon, le yak à faucon, ça sert à rien. Donc il faut un peu de nuance. Alors je sais que la nuance c'est compliqué quand on n'a pas beaucoup de temps, mais tous ces sujets-là sont des sujets un peu compliqués et donc il faut regarder comment on arrive à trouver des compromis qui sont acceptables.
Des compromis acceptable pour tenter d'allier efficacité et renoncement, si j'ai bien compris. Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici d'avoir répondu à mes questions. Ce n'est pas forcément pour nous redonner le moral, mais au moins on sera lucide. Jean-Marc Jancovici, ingénieur et spécialiste du climat, le think tank que vous présidez s'appelle The Shift Project. Il est 8h46 sur RMC BFM TV.